Jules Lavie.
Vous avez sans doute entendu parler ce matin de cette nouvelle étude qui prouve un risque accru de cancer pour ceux qui utilisent de façon intense leur téléphone portable. Le risque de développer une tumeur cancéreuse est doublé pour les plus gros utilisateurs, d'après cette étude, au-delà d'une demi-heure par jour. Alors on va prendre le temps ce soir sur France Info de développer cette information. Avec nous dans le studio de France Info, Étienne Sandrier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole nationale de l'association Robin des Toits. Nous sommes également en ligne avec Roger Salomon, directeur de l'ISPED, l'Institut de Santé Publique. Directeur de l'Institut de Santé Publique d'Épidémiologie et de Développement, un centre qui dépend de l'Université de Bordeaux. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. C'est donc vous qui publiez cette nouvelle étude aujourd'hui. Alors d'abord, quelle a été votre méthodologie, votre méthode, et qu'est-ce que vous avez découvert ?
La méthode est une méthode classique d'épidémiologie et habituelle qu'on appelle les méthodes de cas témoins, c'est-à-dire on prend des cas, ici des cancers, des témoins, ici des non-cancers, et rétrospectivement on recherche dans leur passé s'il y a une différence de comportement. Ici c'était d'attitude par rapport à la téléphonie mobile.
Comment on fait ? On pose des questions ? Comment ça marche concrètement ?
Oui, on pose des questions. On pose des questions et c'est à la fois... la faiblesse de ce genre d'études dans tous les domaines, parce que justement il y a des biais de mémoire, il y a des difficultés de mesurer précisément ce que les gens disent par rapport à la réalité objective, mais en même temps ce sont à peu près les seules études que l'on peut faire.
Et donc combien de personnes ont été interrogées et sur quelle période ?
Il a été interrogé près de 1000 personnes qui se divisaient en un tiers de tumeurs certaines du cerveau et deux tiers, parce qu'on avait pris ce qu'on appelle deux témoins pour un cas, de non-tumeurs qui ont servi de témoins.
Et donc, qu'est-ce que vous avez observé ? Quelle est votre conclusion ?
Alors, la conclusion, il y en a deux, et puis je rajouterai après derrière un codicille. La première conclusion, c'est que si on prend globalement toutes les tumeurs du cerveau, et l'ensemble des caractéristiques anamnestiques de l'interrogatoire, on ne trouve pas de différence significative.
Attention aux termes techniques, hein, je dis ça parce que...
Pardon ?
Attention, vous utilisez quelques termes techniques que je ne comprends pas moi-même, à vrai dire.
De mémoire, si vous voulez. Donc, on ne trouvait rien. Par contre, lorsqu'on prend, et vous l'avez cité d'ailleurs dans votre annonce au début de l'émission, lorsqu'on prend un groupe particulier... de téléphonistes, d'utilisateurs qui sont ce qu'on appelle les très intenses, qui téléphonent beaucoup, et surtout une tumeur particulière qui s'appelle le gliome, qui d'ailleurs n'est pas une tumeur simple, elle est compliquée, elle est maligne. Dans ce cas précis, si on ramène l'étude à gliome et utilisateur intense, on trouve une relation statistique. On ne peut pas du tout, c'est pas d'une importance capitale, mais enfin, ça peut l'être, on ne peut pas savoir si cette relation, elle est de nature causale, au sens, est-ce que c'est le téléphone qui a induit la tumeur ou est-ce que c'est le téléphone qui a augmenté la naissance d'une tumeur existante ? Ça, on ne pourra jamais, par l'épidémiologie, répondre. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a une relation. Lorsqu'il y a ce type de relation, les épidémiologistes calculent ce qu'on appelle un risque relatif, ou si on veut être barbare, on parle de odds ratio, mais enfin, disons un risque relatif, c'est-à-dire on regarde quelle est la multiplication du risque. Et vous l'avez dit aussi, je crois...
Et donc, quel est le résultat, alors ?
C'est presque
Pour ces utilisateurs intensifs du portable ?
C'est presque deux, c'est-à-dire que, dit d'une certaine manière, il y a deux fois plus de risque d'avoir un gliome quand on est un fort utilisateur et pendant longtemps dans la téléphonie mobile que sinon.
Fort utilisateur, ça veut dire à quelle
fort
dose ? Combien de minutes par jour ou par mois ?
C'est-à-dire, pendant des années, une utilisation de l'ordre de 15 heures par mois.
Merci beaucoup, merci Roger Salomon. Étienne Sandrier, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Robin des Toits. Nous sommes aussi avec Anne-Laure Barral, spécialiste environnement de France Info, et Jean Zed qui est toujours avec nous dans ce studio pour relayer vos questions. Étienne Sandrier, est-ce que vous êtes surpris par cette nouvelle étude ?
Pas du tout, parce que déjà, il y a une étude qui avait été faite par un scientifique qui s'appelle Ardel, et qui montrait déjà une augmentation de tumeurs du cerveau quand on l'utilisait de manière intensive, c'est-à-dire, à nouveau, intensif, c'est une demi-heure par jour. Or, il y a de plus en plus de gens qui n'ont même plus de ligne fixe à l'heure actuelle, ou qui utilisent d'ailleurs le téléphone sans fil à la maison, et qui posent exactement les mêmes problèmes sanitaires. Donc on n'est pas du tout surpris, et puis d'ailleurs, l'Organisation Mondiale de la Santé avait classé en catégorie 2B, c'est-à-dire cancérigènes possibles, les radiofréquences en général, donc pas simplement le portable, mais les antennes relais, le Wi-Fi, etc., tout ce qui va avec.
Alors j'allais vous poser la question avant d'aller plus loin, de quel type d'ondes parle-t-on ? Parce qu'on parle souvent des ondes des téléphones portables, c'est quoi concrètement en fait ?
Alors en fait ce sont des micro-ondes, donc nous avons des, avec ces micro-ondes nous avons théoriquement des limites à ne pas dépasser, mais qui ont été malheureusement fixées par des scientifiques qui sont en lien avec l'industrie. Et donc quand on est dans la gamme des micro-ondes, on a pris des valeurs limites qui nous protègent uniquement contre les effets dits thermiques. En clair, on est protégé contre la cuisson. Mais tous les autres effets qui sont dits athermiques ou spécifiques ne sont pas du tout pris en compte par cette réglementation.
Et quelle différence, enfin, quelle différence avec les ondes par exemple qui passent dans toutes les maisons ou les appartements qui transmettent la radio ?
À la radio, c'est des ondes continues. Donc, sauf à habiter tout contre l'antenne, et personne n'habite tout contre l'antenne, il n'y a pas de problème.
Et aucun risque.
Là, on est avec des ondes particulières qui sont dites pulsées, c'est-à-dire discontinues.
Et est-ce que c'est les mêmes que les ondes Wi-Fi ou Bluetooth, par
absolument,
exemple
Absolument, c'est tout à fait les mêmes technologies. C'est toutes les technologies dites du sans-fil.
Et est-ce que c'est les ondes des téléphones portables qui, selon vous, posent le plus de problèmes par rapport au Wi-Fi, par exemple? Ou est-ce que c'est plus général?
C'est l'ensemble. Là, on parle de grands utilisateurs de portables. Alors, c'est vrai que quand on a le portable contre l'oreille, on en prend plus. Mais quand on vit près d'une antenne relais qui émet beaucoup, on en prend pendant 24 heures sur 24, donc on a les mêmes soucis qui peuvent se présenter. Et d'ailleurs, les compagnies d'assurance ne couvrent plus ce risque sanitaire, tellement il est important.
Pour l'instant, les études scientifiques, elles parlent essentiellement des risques de l'usage du téléphone portable collé à l'oreille, mais elles disent que pour le Wi-Fi, les ondes des antennes relais, on ne sait pas pour l'instant.
Alors le problème, c'est qu'on a différents résultats de recherche, y compris ceux de la NASA, qui datent de 1981, sur les effets des micro-ondes, y compris à basse intensité. Et donc ce qui est un peu dommage, et même qui nous inquiète, nous, c'est qu'on refait des études pour lentement d'ailleurs, hein. C'est comme si on voulait ralentir la connaissance scientifique pour montrer des choses que l'on sait déjà. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'il y a des fréquences qui sont particulièrement pas bonnes et que globalement, il faut réduire l'exposition du public. Or, à l'heure actuelle, on fait tout pour augmenter cette exposition et on vient de lancer la 4G sur le marché, alors que depuis 2009, nous, Robin Détois, dans le cadre du Grenelle des ondes, on a demandé qu'on fasse une étude d'impact sanitaire avant qu'on mette la 4G sur le marché. Les pouvoirs publics ne se sont pas donné les moyens de savoir avant.
Nous sommes toujours en ligne avec Roger Salamon, directeur de l'Institut de Santé Publique.
Excusez-moi.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je voudrais qu'on ne confonde pas, il y a deux choses qui me gênent un petit peu. Je voudrais d'une part qu'on ne confonde pas les risques que nous avons d'ailleurs démontrés, et en effet Ardel au Danemark et d'autres l'avaient montré aussi, qu'il y a avec une utilisation de la téléphonie mobile, avec des risques évoqués par le monsieur précédent sur les relais, où rien n'a jamais été décrit et rien n'a jamais été démontré.
Le monsieur en question, c'est Étienne Cendrier de l'association Robin Détois.
Voilà, c'est ça. J'avais oublié son nom, excusez-moi.
Non, c'est
donc,
vrai.
Il ne faut pas mélanger les choses. Je ne dis pas que les études ne seront pas nécessaires, mais ce qui a été démontré est sur le téléphone, qui est tout à fait vrai, qui mérite d'y réfléchir, et j'y reviendrai, rien n'a jamais été démontré sur les relais.
Quand vous dites « rien n'a jamais été démontré », est-ce que ça veut dire qu'il a été prouvé qu'il n'y avait aucun risque ?
Il n'y a jamais eu de publication montrant un effet délétère médical sur la proximité, sauf bien sûr si on se couche dessous et qu'on y reste toute la journée, des relais de téléphonie mobile. Il ne faut pas confondre les choses, ce n'est pas les ondes dont on parle là, c'est le téléphone contre la tempe et contre l'oreille. Le deuxième point que je voudrais quand même soulever, parce que il est évident que on est obligé de publier ce genre de choses, et j'en suis ravi, et il faut faire améliorer la connaissance et prévenir le public de ne pas téléphoner de manière excessive, mais il ne faut pas non plus complètement l'alarmer et lui faire peur. Et quand on dit qu'on multiplie par deux le risque de gliome, sachez que ça signifie exactement la chose suivante. Si vous téléphonez pas, vous avez une chance d'avoir un gliome dans votre vie à peu près, vous, un homme normal, qui est de l'ordre de 5 à 6 pour 100 000.
Si
vous téléphonez beaucoup, vous avez deux fois plus de chances, c'est-à-dire 10 à 12 pour 100 000. Ça ne veut pas dire que le risque n'existe pas, on a démontré qu'il existait, on l'a publié et on n'est pas gêné de le dire, mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas complètement alarmer la population, c'est un risque qui reste faible, très faible.
Jean Z est toujours dans le studio de France Info, ce risque potentiel divise les internautes.
Oui, Lionel qui écrit, si on éliminait tout ce qui est susceptible de donner le cancer, on ne ferait plus rien, à commencer par respirer, pollution, manger, pesticides, boire, soda, alcool, eau, téléphoner, regarder la télé, ondes électriques, se promener, ondes électromagnétiques, etc. Corinne, il ne s'agit pas d'éliminer, mais d'agir avec modération. Réduire ce qui pourrait causer le cancer, ce n'est pas ne plus rien faire. Enfin Thierry, il convient de rappeler qu'en matière épidémiologique, une seule étude, surtout sur un nombre de cas relativement limité, est insuffisante pour apporter une preuve solide. En revanche, l'étude vient apporter un élément de plus à l'édifice.
Étienne Cendrier, comment vous réagissez à ce que disent nos internautes ?
D'abord, il y a différentes réactions. Effectivement, il ne s'agit pas de tout interdire et de s'empêcher d'exister. Il s'agit de réduire les risques quand on peut les réduire, et on peut le faire. Le problème, c'est que ça rend la technologie un peu moins rentable. Je suis d'ailleurs pas tout à fait d'accord avec Monsieur Salamon, parce que il y a des études qui ont montré des effets sur les riverains d'antennes relais, donc je suis surpris qu'ils connaissent pas cette partie de la littérature scientifique, et je rappelle que l'OMS a classé l'ensemble de ces ondes dans la catégorie cancérigène possible, pas simplement le portable. Évidemment, quand on s'occupe que du portable, c'est un peu comme avec la cigarette, c'est la responsabilité de l'utilisateur, mais c'est l'ensemble du système qu'il faut améliorer et dont il faut réduire les risques.
Il nous reste moins d'une minute. Est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs? Donc on a bien compris qu'il fallait pas forcément être trop alarmiste. Est-ce qu'il y a des conseils quand même à donner très pratiques sur la gestion du téléphone portable?
Alors je vais vous surprendre, je vais donner les mêmes conseils que donnent les opérateurs sur leur site en tout petit, sur la partie rubrique santé, c'est-à-dire de l'utiliser le moins possible, contrairement à la publicité qu'ils en font, éviter de l'utiliser en voiture, dans les ascenseurs, etc. Tout ce
Pourquoi
qui fait cache de Faraday, c'est-à-dire qu'on va, c'est un des pièges à ondes, entre guillemets, on va s'exposer plus les gens à côté. On peut parler de téléphonisme passif, et surtout les femmes enceintes ne devraient pas l'utiliser. Et il y a une loi qui a
pas
été
pas du tout selon vous.
Oui, absolument pas. Et il y a une loi qui a été votée, qui n'est toujours pas appliquée, qui permet au ministre de la Santé d'interdire le téléphone portable pour les enfants de moins de 6 ans. On aimerait bien que ça rentre en ligne de compte, que ça soit appliqué pour protéger les enfants.
En tout cas, commencer par une oreillette, c'est pas mal.
Merci beaucoup Anne-Laure Barral. Merci à vous, Jean-Z. Merci, Étienne Sandrier. Je rappelle que vous êtes porte-parole de l'association Robin des Toits. Merci à Roger Salomon, qui était au téléphone, directeur de l'ISPED, l'Institut de Santé Publique d'Épidémiologie et de Développement.
Nouveau Monde.
Avec Jérôme Colombin, on pensait avoir tout vu en matière d'objets connectés. En fait, le plus surprenant reste à venir.
Les bracelets, pèse-personnes et autres thermostats branchés sur nos smartphones, on connaît. Mais ce n'est que le début. Voici une petite moisson printanière de joujou high-tech pour le moins insolite. Et d'abord du côté de la maison.